Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Plus de 40 morts au Nigeria après l'attaque d'un village. Au Togo, les nouveaux députés ont effectué leur entrée à l'hémicycle ce mardi. Le département américain condamne fermement le coup d'État déjoué en République du Congo. La Grande-Bretagne soutient l'initiative de 15 pays européens voulant désigner des pays tiers sûrs pour les migrants. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, des hommes armés à moto ont tué une quarantaine de personnes lundi soir. Ils ont attaqué et pillé le village de Zourak dans l'état du Plateau, une région régulièrement secouée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Lundi, de 17h à minuit, les assaillants ont tiré sur quiconque était dehors et enlevé des gens et des villageois se sont enfuis dans la brousse, a expliqué Shafi Sambo, un responsable local de la jeunesse. Des informations confirmées par le commissaire à l'information de l'état du Plateau. Cet état du centre-nord du Nigeria a connu de très violents affrontements intercommunautaires en décembre lorsque près de 200 personnes ont été tuées pendant le week-end de Noël. Les habitants de Zourak, visés par l'attaque, vivent principalement des activités minières. En janvier, de nouvelles attaques y ont fait plus de 50 morts et des milliers de déplacés. Ces exactions font partie des principaux défis sécuritaires auxquels est confronté le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui cherche à attirer les investissements étrangers dans le pays le plus peuplé d'Afrique et première économie du continent. Il a fait campagne en promettant de réduire l'insécurité.
7 soldats nigériens sont morts dans une attaque de djihadistes présumés hier près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, affirme ce mardi le gouvernement à Niamey, ajoutant que ses forces ont en riposte tué, je cite, plusieurs dizaines de terroristes. L'attaque a visé une position militaire dans la zone de Boni, une localité proche de la frontière burkinabé dans le sud-ouest du Niger. La localité de Boni est administrée par le département de Torodi dans la région de Tillabéri. Depuis des années, cette partie du Niger est régulièrement visée par les assauts de ces groupes armés malgré le déploiement massif de forces anti-djihadistes. Au Togo, les nouveaux députés ont effectué leur entrée à l'hémicycle ce mardi, marquant ainsi le début de la 5e République togolaise. Sur les 113 députés élus lors des dernières législatives, 107 étaient présents à la session inaugurale. Cette nouvelle législature est inédite. Avec elle, le Togo vient de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, ce qui permet aux députés d'élire désormais le président de la République. Rendez-vous en seconde partie de cette édition pour le reportage sur place de notre correspondant Kossi Wousou. En Guinée, un collectif de la société civile, le FNDC, menace de reprendre les manifestations si la junte ne s'engage pas à rendre le pouvoir d'ici à la fin de l'année. Ibrahima Diallo, représentant du Front National pour la Défense de la Constitution, a déclaré devant la presse à Conakry « Nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques ». Le FNDC va engager des consultations avec les partis, la société civile et les syndicats de la presse en vue d'une reprise des manifestations, a-t-il ajouté, en pressant le général Doumbouya de renouer le dialogue avec l'opposition. Samedi déjà, une coalition de l'opposition, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, a appelé à des manifestations. Au Soudan, au moins 85 personnes sont mortes dans un seul hôpital de la ville d'El Fasher au Darfour depuis que les combats ont repris entre les parties belligérantes le 10 mai, a déclaré l'ONG Médecins sans frontières. Depuis plus d'un an, les combats font rage entre l'armée régulière dirigée par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide dirigées par son ancien adjoint Mohamed Abdan Daglo. El Fasher est la dernière grande ville du Darfour à ne pas être aux mains des FSR et était jusqu'alors relativement épargné. La Commission européenne reconnaît une situation difficile après la publication d'une enquête journalistique selon laquelle des milliers de migrants ont été arrêtés et abandonnés en plein désert au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie avec le soutien financier de l'Union européenne. Yacouba Ouédraogo.
Cette enquête de plusieurs mois a été menée par des médias internationaux dont Le Monde et le Washington Post avec le collectif de journalistes Lighthouse Reports. Elle révèle comment l'Europe soutient, finance et participe directement à des opérations clandestines menées au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie pour abandonner chaque année des dizaines de milliers de Noirs dans le désert ou dans des régions reculées afin de les empêcher de venir dans l'Union européenne. D'après elle, ces réfugiés et migrants sont appréhendés en raison de la couleur de leur peau, emmenés dans des bus et conduits au milieu de nulle part, souvent dans des zones désertes et arides, sans eau ni nourriture. Certains sont vendus par les autorités à des trafiquants d'êtres humains et à des gangs qui les torturent contre rançon. L'enquête décrit un système de déplacement de masse qui fonctionne grâce à l'argent, les véhicules, l'équipement, le renseignement et les forces de sécurité fournies par l'Union européenne et les pays européens. C'est une situation qui est difficile, qui est mouvante et sur laquelle nous allons continuer à travailler, a déclaré Eric Mamère, porte-parole de la Commission européenne. L'Union européenne a conclu des accords avec le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie qui prévoient des financements européens pour renforcer leur capacité à freiner l'immigration vers l'Europe.
En Égypte, au moins 10 personnes ont été tuées après qu'un minibus est tombé dans le Nil au nord du Caire, la capitale. Selon le journal Al-Haram, qui a été le premier à faire état de l'accident, le minibus a chuté d'un ferry traversant le fleuve. Le conducteur du bus n'ayant pas tiré le frein à main, le minibus transportait notamment des femmes travaillant dans une ferme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau bombardement israélien dans la bande de Gaza aujourd'hui. Au moins 85 Palestiniens ont été tués. L'aviation israélienne a frappé haut environ 70 cibles ces dernières 24 heures, a indiqué l'armée en disant avoir éliminé plusieurs combattants dans le sud, le centre et à Jabalia dans le nord. À Jabalia, justement, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'hôpital Al-Hawda était assiégé depuis 2 jours et que 170 patients et membres du personnel y étaient bloqués, signalant des informations sur des tirs de snipers. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est félicité ce mardi à Vienne que de plus en plus d'États européens veuillent désigner des pays tiers sûrs pour les migrants, à l'image de l'accord récemment signé entre son pays et le Rwanda. Nanit Talani.
Je suis ravie que 15 pays européens se soient désormais unis pour réclamer que la Commission européenne désigne des pays tiers sûrs aptes à accueillir des migrants, a déclaré Rishi Sunak. Selon lui, il est de plus en plus clair que de nombreux pays conviennent désormais que c'est l'approche qui s'impose. Nous devons procéder à des renvois vers des pays tiers sûrs, comme le programme pionnier du Royaume-Uni au Rwanda, a-t-il martelé. Soulignant son entente avec le chancelier autrichien Karl Nehammer sur le sujet, le chef du gouvernement britannique a déploré que dans l'Union européenne, le chemin soit encore long pour convaincre tout le bloc. La semaine dernière, 15 pays membres de l'Union européenne, mais sans la France, ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ont pressé dans une lettre la Commission à transférer des migrants vers des pays tiers, citant aussi comme exemple le récent accord conclu par l'Italie avec l'Albanie. Il réclame en outre que les personnes déboutées de l'asile soient envoyées dans ces pays et souhaite une réforme de la loi européenne qui prévoit qu'un migrant soit transféré vers un pays tiers uniquement s'il a un lien suffisant avec lui.
Le président français Emmanuel Macron est attendu ce soir en Nouvelle-Calédonie, secoué par une flambée de violence. Il devrait y installer une mission, a annoncé la porte-parole du gouvernement. En Iran, une foule immense a rendu hommage au président Ebrahim Raisi, dont le décès accidentel a ouvert une période d'incertitude politique. Prévue pour durer jusqu'à jeudi, les funérailles ont débuté tôt ce matin à Tabriz, la grande ville du Nord-Ouest, à proximité de laquelle M. Raisi est mort dans un accident d'hélicoptère dimanche avec 7 autres personnes, dont le chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian.
Voilà
pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La communauté de développement de l'Afrique australe a lancé le lundi 20 mai 2024 un appel de fonds pour mobiliser 5,5 milliards de dollars d'aide humanitaire destinée à réduire l'impact des graves sécheresses et inondations causées par le phénomène climatique El Niño. La Zambie, le Zimbabwe et le Malawi ont connu cette année la pire sécheresse jamais enregistrée depuis au moins 40 ans, ce qui a affecté les récoltes, les réserves en eau et l'approvisionnement en électricité. Au Burkina Faso, mise sous tension d'une centrale solaire de 26,6 MW, la centrale située dans le village de Zina, dans la province du Moun, fournira de l'électricité à plus de 43 000 personnes, tout en compensant 13 200 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an. Le projet a été financé par la Société financière internationale, le programme de lutte contre le changement climatique et le Fonds d'infrastructure pour l'Afrique émergente. 16 des principales entreprises mondiales d'intelligence artificielle, dont les représentants sont réunis ce mardi à Séoul, ont pris de nouveaux engagements pour assurer le développement en toute sécurité de cette science, a annoncé le gouvernement britannique. L'accord signé notamment par OpenAI, propriétaire de ChatGPT, Google DeepMind et Anthropic, s'appuie sur les consensus atteints lors du premier sommet mondial sur la sécurité de l'intelligence artificielle l'an dernier à Bletchley Park, au Royaume-Uni.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Cyclisme, pour commencer avec le Tour du Mali qui a débuté ce mardi.
Oui, les coureurs de 7 pays sur 14 annoncés s'affrontent sur 6 étapes jusqu'au dimanche 26 mai. Le temps a été donné à la place du cinquantenaire par le ministre malien des Sports, Abdoul Kassim Fomba. Le thème retenu est l'intégration par le sport, un thème que nous explique le président de la Fédération malienne du cyclisme.
L'intégration commence par nous-mêmes d'abord. Il faut que nous sachions nous intégrer dans le système africain et au-delà. Comme vous le savez déjà, nos plus hautes autorités ont amorcé une dynamique, la création de l'Itako Gourmand, c'est-à-dire que les pays de l'AES. Vous avez vu, tous ces pays-là ont répondu favorablement à notre invitation. C'est pour dire que le sport peut facilement intégrer les populations. Le politique donne le ton, mais c'est aux populations maintenant de continuer à faire le brassage, de continuer à s'intégrer et maintenant aller réellement vers des intégrations solides. Au-delà même de l'espace AES, on doit aller maintenant vers cette intégration, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique tout entière et au-delà.
Sidi Bakayoko, président de la Fédération malienne du cyclisme, au micro de notre correspondant Siaka Traoré. En plus du pays hôte, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Maroc prennent part à ce Tour du Mali.
Toni Kroos va raccrocher les crampons après l'Euro 2024.
En fin de contrat avec le Real Madrid, où il a atterri en 2014, l'emblématique milieu de terrain allemand a annoncé qu'il mettrait fin à l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football cet été après l'Euro 2024 à 34 ans. « Ma carrière de footballeur s'achèvera cet été après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club », a écrit Toni Kroos sur Instagram. Le maître à jouer du Real a remporté 33 titres, 10 avec le Bayern Munich, 22 avec le Real Madrid et la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. Toni Kroos, qui a disputé 463 matchs sous le maillot merengue, va tenter de rapporter au Real sa 15e Ligue des Champions, qui serait aussi sa 6e pour finir au firmament à Wembley, théâtre de la finale face à Dortmund le 1er juin.
11e tournoi majeur pour Cristiano Ronaldo lors de l'Euro 2024.
Cristiano Ronaldo figure dans la liste des 26 joueurs dévoilés par le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Roberto Martinez, pour l'Euro 2024. Le quintuple Ballon d'Or disputera à 39 ans son 11e grand tournoi international. 20 ans après ses débuts à l'Euro 2004 organisé au Portugal et 8 ans après le sacre de la Seleção à l'Euro 2016, Cristiano Ronaldo va jouer son 6e championnat d'Europe, nouveau record de participation à 1 euro pour celui qui détient déjà le record mondial de sélection 206 et de buts 128 en équipe nationale. Ronaldo a marqué 42 buts en 41 matchs de la Saudi Pro League avec son club saoudien Al Nassr. L'Euro aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Togo, les députés élus lors des législatives du 29 avril ont fait leur entrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour cette législature, le parti au pouvoir disposera d'une majorité écrasante de 108 députés contre 5 pour l'ensemble de l'opposition. À l'occasion de la séance inaugurale présidée par le doyen de cette assemblée, un député de l'opposition, ce dernier a appelé la majorité à privilégier le consensus pour le bien du peuple togolais. De Lomé, notre correspondant, Kossi Wosou.
8 jours après la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 29 avril, tous les nouveaux élus ont siégé pour la première fois ce mardi. C'est Aimé Gogué, député du parti de l'opposition ADI, qui a présidé cette séance inaugurale en tant que le plus âgé des députés, conformément aux textes légaux. Il a appelé les élus à transcender leur appartenance politique et à travailler pour le peuple.
Notre objectif ultime devait être le développement de notre pays, ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Je souhaite que dans cette salle, au lieu de dialogue, de concertation et de recherche de consensus, tous les actes que nous poserons, toutes les décisions que nous prendrons soient toujours motivées par cet objectif ultime.
De bonne guerre, répond Kyle Lawson, député du parti majoritaire Unir, qui estime que cette aspiration est en droite ligne avec les idéaux de son parti.
Vous savez ce que le doyen Dash nous a dit, ça correspond bien à la vision du président de la République, président de notre grand parti Unir, qui a toujours prôné le dialogue entre tous les Togolais. Vous savez que l'Assemblée nationale est là pour porter le gouvernement à aller en avant. Donc nous attendons la proposition du gouvernement pour voir ce que nous pouvons faire au cours de cette nouvelle législature pour permettre aux Togolais d'aller de l'avant et de continuer à construire ensemble notre pays main dans la main.
À cette rentrée inaugurale, Jean-Pierre Fabre, unique député de l'Alliance nationale pour le changement ANC, de même que Dodi Apevon des FDR, parti de l'opposition, ont boycotté la séance. Ce n'est pas le cas de Kafui Adjamagbo Johnson de la dynamique pour la majorité du peuple.
Nous mesurons l'importance des responsabilités que nous prenons et que les Togolais nous ont confiées. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever pour que notre nation soit réconciliée. Et notre Assemblée doit permettre de régler le problème de la Constitution qui a été adoptée sans la participation des Togolais. C'est une lourde responsabilité pour nous.
Pacome Adjourouvi, ancien député et ministre en charge des relations avec le Parlement, attend beaucoup de cette nouvelle législature.
C'est une joie pour moi de retrouver à l'hémicycle aujourd'hui des députés nouvellement élus. Rassemblement, unité, projection dans l'avenir. Voilà ce que nous attendons de la nouvelle représentation que le pays s'est doté.
Dans les jours à venir, l'Assemblée nationale adoptera son règlement intérieur en lien avec la nouvelle constitution qui fait basculer le pays dans le régime parlementaire. Elle procédera également à l'élection de son bureau. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. Un nouveau rapport de Human Rights Watch appelle les Nations Unies et l'Union africaine à imposer un embargo sur les armes au Soudan alors que le nettoyage ethnique se poursuit au Darfour. Nous faisons le point avec Henry Wilkins, le récit est de Gabi Dorsil.
Un rapport publié le 9 mai par Human Rights Watch détaille ce qu'il appelle le nettoyage ethnique en cours mené par les forces de soutien rapide et leurs milices alliées dans la région du Darfour au Soudan. Le rapport indique que les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire d'origine arabe, ont pris pour cible le peuple massalite qui n'est pas arabe et ont tué des milliers de personnes sans toutefois en préciser le nombre. Les Nations Unies indiquent qu'environ 8 800 000 personnes ont fui leur foyer au Soudan depuis que les combats ont éclaté en avril avril de l'année dernière. Le rapport appelle l'ONU et l'Union africaine à mettre en œuvre un embargo sur les armes à destination du Soudan afin de prévenir de nouvelles violences. Mohamed Ousmane est le principal auteur du rapport.
Il y a beaucoup de leçons apprises que la communauté internationale et régionale ne semble pas saisir ou mettre en œuvre pour empêcher d'autres atrocités. Nous avons tiré la sonnette d'alarme même, comme je l'ai mentionné, à partir de 2020, sur les attaques continues contre les civils. Nous n'avons pas vu de réponse appropriée de la part de la communauté internationale.
Ousmane affirme que ni l'ONU ni l'Union africaine n'ont donné suite au rapport.
Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun mouvement ou une réponse de la part de ces entités aux recommandations que nous avons formulées.
L'Union africaine n'a pas répondu à la demande d'interview de la VOA, pas plus que le bureau de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Soudan. En avril, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que des crimes contre l'humanité avaient peut-être été commis au Darfour et a depuis exprimé sa vive inquiétude quant à la poursuite des combats. Ousmane, lui, a exprimé sa frustration.
Je pense que nous devons avoir une conversation sur la responsabilité morale et politique en même temps, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes aux côtés du peuple soudanais et continuer à exprimer notre solidarité. Mais en termes d'action, quand les gens en ont besoin, nous n'allons pas de l'avant.
Mohamed Ousmane estime que la communauté internationale doit travailler ensemble pour mettre fin à la crise. En plus de la mise en place d'un embargo, il faut que les responsables rendent des comptes.
Il faut mettre le Darfour et le Soudan au centre de l'agenda, s'engager avec les parties prenantes soudanaises, pas seulement les élites politiques ou les militaires, parler aux groupes civils, à la société civile, aux communautés de réfugiés déplacés.
Une force de maintien de la paix de l'ONU qui avait été envoyée au Darfour après le génocide de 2003 a quitté la région en 2021, ce qui a provoqué une recrudescence des attaques contre les Massalites et d'autres groupes ethniques noirs. Les analystes estiment que la guerre civile qui a débuté au Soudan l'année dernière a aggravé la situation et entraîné un effondrement de l'ordre public.
Les armes à feu divisent les électeurs américains avec un nombre presque égal de personnes adoptant des positions opposées dans le débat sur la sécurité des armes à feu, selon un sondage de Pew Research. Les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump, ont également des points de vue divergents sur les armes à feu et leur contrôle. C'est un sujet de Scott Stearns, correspondant de la VOA, le récit avec Antoine Roger Bolamba.
Près d'un tiers des Américains déclarent posséder une arme à feu, selon les Pew Research Center. Il s'agit d'un droit constitutionnel qui devient souvent un enjeu politique pour les présidents. Lorsqu'il y a eu des fusillades dans les écoles, comme celle survenue dans un lycée de Floride en 2018, et qui s'est terminée par l'évacuation policière d'élèves qui se cachaient dans leur salle de classe. Le président de l'époque, Donald Trump, a rencontré les familles des victimes pour discuter de la violence par arme à feu.
Cela dure depuis trop longtemps. Il y a eu trop de cas. Et nous allons y mettre un terme.
En tant que président, les politiques de Trump en matière d'armes à feu se sont principalement concentrées sur le renforcement de la sécurité dans les écoles, notamment en suggérant que les enseignants soient armés. En tant que candidat à la présidence, Trump a déclaré samedi à la puissante association défendant le droit du port d'armes à feu que les armes à feu sont essentielles à la sécurité personnelle.
Notre pays est en train de sombrer dans l'enfer. Des gangs avides et des criminels impitoyables terrorisent nos rues et la faiblesse de Joe Biden nous fait vaciller au bord de la Troisième Guerre mondiale.
En acceptant le soutien de la National Rifle Association, Trump a déclaré que Biden essayait de, je cite, « retirer les armes à feu des mains des citoyens respectueux de la loi et de saper les droits sur les armes à feu garantis par le deuxième amendement de la Constitution ».
Nous devons avoir un deuxième amendement qui ait du sens. Si nous ne le faisons pas, nous allons connaître des niveaux de mort et de destruction que ce pays n'a jamais connus auparavant.
Lorsqu'un adolescent armé a tué 19 enfants et 2 enseignants dans une école primaire du Texas en 2022, le président Biden a déclaré « Nous devons agir ».
En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, allons-nous nous dresser contre le lobby des armes à feu ? Quand ferons-nous ce que nous savons tous au fond de nous-mêmes qu'il faut faire?
La Maison-Blanche et le Congrès se sont mis d'accord sur un plan bipartisan élargissant les vérifications des antécédents pour les jeunes acheteurs d'armes à feu et aidant les États à retirer les armes à feu des personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
J'ai promulgué la loi sur la sécurité des armes à feu la plus importante depuis près de 30 ans, ce qui, je sais, est important pour la communauté avec laquelle je pleure. Et je me souviens d'Atlanta, de Half Moon Bay et de Monterey Park.
Depuis que les Républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2022, il n'y a pas eu de nouvelle législation sur le contrôle des armes à feu. Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, blâme les partisans de Trump.
Aujourd'hui, les extrémistes du MAGA et le Congrès républicain inactif quittent la ville sans s'attaquer de manière significative à l'épidémie de violence par les armes à feu en Amérique.
L'opinion des électeurs américains sur les armes à feu se divise largement en fonction des clivages politiques. Les données des Pew Research montrent que les républicains et les indépendants ayant un penchant pour les républicains sont plus de deux fois plus susceptibles de posséder une arme à feu que les démocrates et les indépendants de tendance démocrate.
La Russie a accusé ce mardi les États-Unis de vouloir déployer des armes dans l'espace après avoir fait l'objet d'accusations similaires de la part de Washington début mai. Hier, son projet de résolution sur la prévention d'une course à l'armement spatial n'a pas obtenu les 9 votes nécessaires au Conseil de sécurité. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Le texte présenté par Moscou a recueilli 7 voix pour dans la Chine et l'Algérie, 7 contre dans les États-Unis et l'abstention de la Russie. S'exprimant avant le vote, l'ambassadeur russe Vasily Nebenzia a déclaré que le projet de résolution contenait des dispositions reflétant les intérêts de la majorité des membres des Nations Unies. Il a prêté à Washington des intentions trompeuses dans un précédent projet.
Grâce à sa vaste portée, ce projet de résolution vise à réaffirmer les obligations des États de ne pas utiliser l'espace extra-atmosphérique pour y placer des armes de quelque forme que ce soit, y compris des armes de destruction massive. C'est d'ailleurs précisément ce langage que les collègues américains, sous un prétexte inventé de toutes pièces, ont clairement refusé d'inclure dès le début dans leur projet de résolution au Conseil de sécurité.
Le 24 avril, la situation était inversée. Moscou avait opposé son veto à un projet de résolution présenté par le Japon et les États-Unis. La Russie reprochait à ce texte de seulement se concentrer sur les armes nucléaires. Avec le rejet du texte russe, les États-Unis ont démontré qu'ils visent à faire de l'espace une arène d'affrontement militaire, a déclaré ce mardi la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Devant le Conseil de sécurité hier, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, a remis en question les intentions affichées de Moscou.
We have heard President Putin say publicly that Russia has no intention.
Nous avons entendu le président Poutine déclarer publiquement que la Russie n'a pas l'intention de déployer des armes nucléaires dans l'espace. Si tel était le cas, la Russie n'aurait pas opposé son veto à cette résolution. Au cours des dernières semaines, suite à la condamnation d'un groupe d'États membres lors de l'Assemblée générale du 6 mai, la Russie a cherché à détourner l'attention de ces dangereux efforts visant à mettre une arme nucléaire en orbite.
En février, la Maison-Blanche a assuré que la Russie développe une arme nucléaire spatiale anti-satellite, alors que les États-Unis tentent aussi d'assurer la défense de leurs satellites. Le risque d'une militarisation de l'espace semble déjà enclenché, malgré l'existence du traité de 1967, requérant de ne pas développer d'armes nucléaires ou toute autre arme de destruction massive conçue spécifiquement pour être placée en orbite.
Fin de cette édition. Merci beaucoup de votre fidélité. C'était Claire Morin-Gibourg. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos pages Facebook, la plateforme X, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.